20h, 21h. Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
Au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, je ne vais prendre que de très jolies filles, puisque je voulais rester dans une certaine gamme de garçons et de prix. Et puis, je me suis rendu compte que, non, il n'y avait pas tellement de très jolies filles au départ. Certaines étaient grandes, elles avaient un vilain nez ou de mauvaises dents. Alors, j'ai trouvé les dentistes, les chirurgiens qu'il fallait et je les ai fabriqués.
Nous sommes le 16 mars 1992. Madame Claude, la proxénète la plus célèbre de France, est arrêtée par la commissaire Martine Monteil, la première femme à diriger en France la brigade de répression du proxénétisme. Un duel entre deux femmes que tout oppose. L'une, qui fabriquait ses filles, comme elle les appelait, afin de rendre le vice joli, ce sont ses mots. Et l'autre, petite fille, fille et femme de flic, bien décidée à mettre à l'ombre celle qui, jusqu'alors, n'avait jamais été inquiétée pour ses activités illicites. Parce que Madame Claude, c'était le pouvoir du sexe et des secrets bien gardés. Ses filles étaient jeunes, éduquées, cultivées et peu farouches. Ses clients, qu'elle préférait appeler les garçons, étaient des hommes politiques, des capitaines de l'industrie, des personnalités du show business. Madame Claude attirait dans ses filets ceux qui seraient un jour obligés de la protéger. Alors qui était cette femme dont le passé était aussi mystérieux et savamment gardé que son carnet d'adresses ? Qui se cachait réellement derrière celle qui déclarait ne pas connaître la peur, qui détestait les mots passe, pute et proxo ? Et puis comment avait-elle monté son réseau qui lui a apporté la fortune et qui a provoqué sa chute ? Portrait ce soir d'une femme qui a fait trembler les plus hautes sphères de l'État. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Virginie Giraud, bonsoir.
Bonsoir Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste des femmes et de la sexualité. Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui prétendre avoir un jour connu Madame Claude, elle qui brouillait tant les pistes ?
Ah, je pense que personne ne peut se vanter d'avoir vraiment connu Madame Claude. C'était une femme très mystérieuse, puisqu'elle inventait des mythes, elle voulait rendre la vérité plus belle. Donc on ne sait jamais ce qui était vrai et ce qui était faux avec elle. Au final, elle jouait un rôle pour ses filles, pour ses clients et puis pour les médias. Et finalement, ce personnage de Madame Claude devait peut-être protéger un peu quelqu'un de plus fragile, Fernande Grudet.
Voilà, et Fernande Grudet dont on va parler dans un instant. En tout cas, c'est donc le 16 mars 1992 que le château de cartes et de charme s'effondre pour la proxénète, la plus puissante et mystérieuse de France. Les cartes, pourtant, elle les a eues en main pendant des décennies, régnant sur la vie sexuelle des plus grands. Quant au charme, il n'a plus opéré quand elle a été placée sous l'étroite surveillance des services de Martine Monteil. Alors, comment a-t-elle monté son réseau? Comment menait-elle ses affaires? Qui l'a protégée? Patricia Herzmann, qui a été l'une des filles de Madame Claude, sera également notre invitée dans un instant. On se retrouve tout de suite, nous sommes en direct dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Bienvenue dans Jour J, votre nouveau magazine de récits qui explore les événements qui ont marqué notre mémoire collective. Jusqu'à 21h, nous revenons donc ce soir sur la vie romanesque et interlope de Madame Claude, la proxénète la plus célèbre de France, qui, d'une main de fer et la bouche cousue, a régné sur les plus grands secrets sexuels d'une 5e République naissante. Mais avant de porter des costumes raffinés, d'arborer des brushings impeccables, la vie de Madame Claude n'a rien d'un conte de fées des quartiers bourgeois de Paris. C'est le 6 juillet 1923 que Fernande Grudet voit le jour à Orléans de sa famille. On entendra de nombreux récits, jamais les mêmes, comme pour mieux semer le doute sur ses origines. Virginie Giraud, vous êtes notre invitée ce soir, vous êtes docteur en histoire. Fernande Grudet, vous en avez parlé il y a un instant, c'était elle. Alors qui était Madame Claude, avant de devenir justement Madame Claude?
Avant, elle est donc Fernande Grudet, c'est son nom de naissance, elle est née donc en province, et après on ne sait rien, puisqu'elle raconte plusieurs versions de sa jeunesse qui ne sont jamais tout à fait les mêmes, mais si on prend comme base le livre qu'elle a coécrit avec Jacques Quarez, le frère de Sagan, qui a recueilli un petit peu ses confessions, un livre qui date de 1975, eh bien elle raconte qu'elle vient de la haute bourgeoisie de province, elle raconte des fêtes de famille avec les cousins, les cousines, les détente, dans les beaux manoirs comme on peut en voir dans la bourgeoisie des territoires. Elle raconte des fêtes de famille sublimes, des enfants qui jouent, quelque chose de très joyeux. Elle raconte être allée chez les visitandines pour avoir une bonne éducation, donc des écoles privées et religieuses. Mais on suppute que tout cela n'est pas très vrai.
Pourquoi ?
Parce qu'elle nous donne jamais les mêmes versions, c'est ça le problème. Il y a toujours des petites nuances, des petites subtilités. Et puis forcément, les historiens, vous savez, c'est comme les enquêteurs de police, on aime fouiller. Et quand on fouille, eh bien, on voit qu'il y a des incohérences. Par exemple, jeune fille, elle raconte qu'elle a participé à la résistance et qu'elle aurait même été déportée. C'est vrai que c'est assez prestigieux comme passé, hein, quand on arrive dans la bonne société parisienne. Eh bien, les historiens qui ont cherché n'ont rien trouvé. Aucune trace de Fernande Grudet, ni d'un quelconque pseudonyme qu'elle aurait pu laisser.
Est-ce qu'on sait véritablement si elle est née à Orléans ?
A priori, oui.
D'accord. On a entendu dire qu'elle avait une sœur aînée qui serait décédée quelques années avant sa naissance.
Oui, donc ça fait déjà un passé familial un peu lourd à porter. Alors ça, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Mais en tous les cas, son départ de sa ville natale est nécessairement la signature d'une enfance malheureuse. On part pas refaire sa vie comme ça quand on est jeune femme, quand tout s'est bien passé.
Est-ce qu'on sait qui étaient ses parents ?
Moi, personnellement, je ne sais pas vraiment qui sont ses parents, vu qu'elle ment toujours sur son enfance, qu'elle ne donne pas vraiment de nom. Les Grudet, a priori, c'est pas la bourgeoisie, c'est plutôt des petits artisans ou des petits ouvriers locaux.
Donc en fait, elle est arrivée un jour à Paris sans passer.
Alors elle s'en est inventée, hein, du coup.
Oui.
Donc elle a raconté qu'elle est sortie avec un résistant, avec qui elle a vécu une grande histoire d'amour, qu'elle a une petite fille avec lui, que cette petite fille était élevée par sa propre mère.
Annie.
Exactement, donc rester en province, pendant qu'elle partait conquérir Paris. Elle arrive à Paris, elle s'installe d'abord à Saint-Germain-des-Prés, on est évidemment dans les années 50, c'est la période Boris Vian, Juliette Gréco, elle fréquente toutes les boîtes de jazz, tous ces aspirants comédiens, puis elle se rend compte que ça, c'est pas son univers, alors elle change de quartier, elle part du côté de Montmartre, mais du côté de Montmartre, c'est un autre monde.
Mais s'en passe des choses à Montmartre.
Et oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
C'est un quartier qui est à l'époque tenu par la mafia corse, qui a des petits restaurants, des petites boîtes interlope. Mais visiblement, elle y est assez heureuse. Elle développe des liens avec cette mafia. Et c'est probablement là qu'elle va goûter à des métiers qui ne sont pas les plus légaux.
Alors, c'est-à-dire ?
Il semblerait qu'elle soit passée par la prostitution elle-même. Elle en dit assez peu de choses d'ailleurs. Hein. Mais quand on remet ensemble les pièces du puzzle, il semble qu'elle se soit prostituée. Est-ce que c'était dans des bonnes conditions ? Je ne saurais pas le dire. Est-ce que c'était avec cette mafia ? Je ne saurais pas le dire, mais c'est très probable. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à un moment, elle veut s'émanciper, elle veut son propre business.
Elle semble, quand on vous écoute aussi, vouloir quitter un milieu social dont on imagine qu'il n'est pas aussi aisé que ce qu'elle en racontait. Elle découvre quoi à Paris ? Elle découvre effectivement la vie nocturne, elle découvre les artistes, elle a assez de tchatch peut-être et de gouailles pour pouvoir rentrer dans des milieux fermés. Elle brosse un portrait de son enfance qui n'est absolument a priori pas conforme à la réalité. Elle découvre la vie parisienne.
Oui.
Donc est-ce que c'est là aussi qu'elle découvre le chic ? Parce qu'on a toujours vu une Madame Claude en brushing, on l'a toujours vue très bien habillée. Est-ce que c'est là qu'elle découvre aussi, je dirais, le style parisien et le style qui aura été le sien pendant tout le reste de sa vie.
Exactement, mais elle se le fabrique et ça prend du temps parce qu'au départ, nécessairement, elle fait un petit peu des essais par-ci par-là. On sait qu'elle vit une histoire d'amour assez passionnelle et rocambolesque avec une petite frappe. D'ailleurs, elle a failli se suicider après qu'ils se sont quittés.
Un chagrin d'amour.
Elle a voulu se jeter sous un pont parisien et elle est arrêtée dans son élan par un clochard qui lui dit que la vie est belle et qu'elle ne doit pas se suicider. Donc finalement, c'est là qu'elle décide de remonter en scène et de créer son propre business. Et là, il va falloir fabriquer Madame Claude.
Mais est-ce que tout ce qu'elle dit là et tout ce que vous me dites est vrai ? C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce soir, on demandera à Patricia Herzmann qui nous rejoindra dans un instant ce qu'elle en pense. Mais ce soir, on a véritablement l'impression de rentrer dans un monde qui nous est inconnu. On marche même sur des œufs, sur les informations que l'on avance, puisque c'est effectivement le fruit de votre travail d'historienne, des entretiens que vous avez pu avoir à ce sujet-là, et en même temps la lecture de son livre. Mais en fait, Madame Claude, c'était qui ? C'était une jeune femme au passé malheureux qui était mythomane, ou c'était une jeune femme qui avait besoin de se rêver une vie parce que tout était difficile, ou est-ce que c'était quelqu'un qui déjà était en train de construire une légende ?
Elle n'est pas mythomane, parce qu'elle ne croit pas à ses mensonges, c'est pas une pathologie chez elle. Mais pour exister, elle doit fabriquer un personnage. Elle sculpte littéralement Madame Claude, qui est un prénom de garçon et de fille, parce qu'elle aime bien jouer de son androgynie aussi. On la voit parfois dans des tailleurs pantalons, où elle joue le Pygmalion. Pygmalion est un homme d'ailleurs dans la mythologie, c'est pas une femme, hein, donc c'est pas un hasard qu'elle, quel est ce prénom qui est ce côté masculin et féminin. Et donc elle va raffiner ce personnage de grande dame, de grande bourgeoise, de grande proxénète au féminin, parce que des tenancières des bordels historiquement, il y en a eu plein, hein, depuis Madame Kelly et le Chabanais, mais des femmes qui ont ce rôle-là dans le nord de Paris des années 50-60, il n'y en a pas beaucoup.
Alors, on a parlé il y a un instant de son enfance dont on ne sait pas grand-chose. Sa fille est-elle venue à Paris ?
Sa fille est un grand mystère. Dans Alloui, qu'elle écrit donc en 1975, elle évoque cette petite fille qu'elle a eue avec un résistant. Bon, le père, hein, c'est certainement pas un résistant, à mon avis, c'est une histoire très malheureuse. Et des années plus tard, elle va être invitée dans les années 1990 dans l'émission de Patrick Sébastien, qui s'appelait Super Nana, où en gros le personnage passe devant un tribunal masculin de comédiens, d'artistes en tout genre, présidé par Kersauzon. Et Kersauzon lui pose une question sur sa fille, enfin, il lui demande est-ce que vous avez des enfants ? Et là,
elle répond non.
Fermeté. Elle répond non. Pas de regret, non. Je n'ai jamais voulu en avoir. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de très douloureux. Certainement, comme beaucoup de femmes de son époque, qui n'avaient pas facilement accès à la contraception, elle a peut-être eu un enfant. Puis après, ben, c'est difficile hein, pour une jeune fille née dans les années peut-être 40 d'être la fille de Madame Claude.
Une femme, en tout cas, Madame Claude, qui aura décidé de prendre son destin en main, mais le destin aussi de plein d'autres jeunes filles. Patricia Herzmann nous rejoindra dans un instant. Elle a été l'un des signes, l'une des filles donc de Madame Claude. On lui demandera quels souvenirs elle garde de ce personnage qui fait la une donc de Jour J ce soir. Jour J que l'on retrouve dans un instant sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui revient ce soir sur le jour de la chute de celle que l'on appelait Madame Claude, le nom de celle qui déclarait « Deux choses marchent dans la vie, la bouffe et le sexe, je n'étais pas douée pour la cuisine ». Au début des années 50, à Paris, Fernande devient donc Claude, faisant de la nuit et des cabarets son terrain de chasse et de charme. Mais elle en veut plus, elle est trop intelligente, trop classe pour se donner au premier venu. Elle décide donc de monter sa petite entreprise, son propre réseau de prostitution. Madame Claude recrute des créatures. Elles sont jeunes, elles sont fraîches et elles parachèvent leur éducation si elles viennent à en manquer. Leur cible, la clientèle masculine huppée, les puissants, les chefs d'entreprise, les hommes d'État, les comédiens célèbres.
Je leur posais certaines questions. Préférez-vous les blondes, les brunes, les grandes, les petites ? Et à partir de ce moment-là, je leur envoyais ce que je pensais être ce qu'ils désiraient.
Voilà, Madame Claude, au micro de Gilles Schneider et Béatrice Schoenberg. C'était sur la 5, le 7 novembre 1990. Patricia Herzmann, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous nous rejoignez dans ce studio. Vous êtes coach de vie aujourd'hui et vous avez été l'une des filles de Madame Claude. Vous êtes d'ailleurs autrice d'un ouvrage Call Girl du Tout Paris aux éditions du Nouveau Monde. Mmh. Avant que vous nous racontiez votre rencontre et le souvenir que Madame Claude vous a laissé, ce que vous avez entendu en ce début d'émission sur ce personnage mystérieux dont on a le sentiment finalement qu'il nous échappe en permanence. Est-ce que vous l'avez connu ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir connu cette vraie Madame Claude, cette Fernande Grudet qui avait réussi à Paris ?
Tout à fait. Je considère que j'ai eu cette chance parce qu'elle s'est un petit peu confiée à moi, ouverte à moi et on a eu très rapidement un lien un peu particulier malgré le fait que j'étais très très jeune quand je l'ai rencontrée.
Quel âge aviez-vous ?
J'avais 18 ans et quelques mois.
Oui, donc tout juste majeur.
Voilà. Et j'ai eu la particularité de travailler, on va dire, pour elle, entre guillemets, déjà depuis 2 mois, avant de la rencontrer, pour être adoubée, comme c'était l'usage pour les autres jeunes femmes. Et
qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux alors ?
Alors,
de
ce qui est vrai,
dit,
ce qui est vrai, c'est effectivement son éducation un petit peu rigoureuse chez les sœurs. Elle y est d'ailleurs restée de sa toute petite enfance jusqu'à presque sa majorité. Suite à ça, alors ce qui est faux, c'est effectivement le comment dit-on, ses origines familiales avec tout ce que ça implique au niveau du standing. Là, elle a enjolivé parce que je pense que elle était mal dans sa peau, mal dans sa ville de province.
Voilà. Vous avez connu ses parents, par exemple, sa mère dont on disait qu'elle venait à Paris la visiter avec sa fille ?
Non. Je pense que quand j'ai connu Claude, sa mère était déjà décédée.
Sa fille, elle a vraiment existé, Annie ?
Elle a existé. Claude l'appelait Anne. Moi, je l'ai toujours entendu appeler Anne.
Ouais.
Et
vous l'avez vue ? rencontrée, cette jeune fille ?
Je l'ai vue en photo, elle était rousse, vous savez, ce qu'on appelle blond vénitien, quoi, ouais. Auburn, un peu bizarre, et pas très jolie physiquement, et Claude, ça, pour elle, c'était un gros problème.
Alors justement, elle le disait en début d'émission, ouais. Hein, on l'a entendu dire, moi les filles, je l'ai fabriquée. Comment est-ce que vous l'avez rencontrée, vous ? Vous aviez donc 18 ans ?
Oui, bah, je l'ai rencontrée par l'intermédiaire de son bras droit, Catherine, qui était, que j'ai... sur laquelle je suis tombée à deux moments différents, un an d'intervalle.
Mais elles vous ont chassé quelque part ? Ce sont elles qui sont venues à vous ou c'est vous qui avez eu envie ?
Pas elle au pluriel, c'est Catherine qui m'a... Oui, tout à fait.
D'accord.
Elle m'a fait l'article en revenant à la charge régulièrement sur les intérêts et la belle vie que je pourrais avoir si je travaillais chez elle. Moi, à l'époque, c'était pas du tout mon projet de vie. D'ailleurs, j'en avais pas trop à cet âge-là, et puis en plus de ça, j'avais pas besoin financièrement de me jeter à corps perdu dans la prostitution, puisque c'est quand même ce qu'on retient malgré tout.
Voilà.
Mais voilà, Claude m'a fait gagner beaucoup de temps, comme je dis souvent, le temps sur le temps, parce que en 2 ans de présence avec elle, d'activité avec elle, j'ai fait un bond en avant dans la vie, dans les relations, dans mon éducation, dans ce que j'ai pu apprendre du monde et de l'être humain en général, grâce à elle quand même.
Est-ce que, alors je vous entends et j'entends un discours que l'on a souvent entendu hein, chez les filles de Madame Claude, c'est-à-dire une profonde reconnaissance. Mais lorsque cette fameuse Catherine est venue un jour vous expliquer qu'elle pouvait vous mettre sur le chemin de la prostitution, elle vous a clairement dit, voilà, tu peux rentrer chez Madame Claude et donc dans ce cas-là tu te prostitues, ou est-ce qu'elle vous a vendu tous les à côté qui pouvaient faire rêver, c'est-à-dire des voyages, des partenaires sexuels très connus, des diamants,
on va dire.
Oui.
Hein, c'était elle m'a parlé de l'ensemble, parce que de toute façon, elle avait quand même subodoré que j'étais pas quelqu'un qui aimait être prise au dépourvu, à qui, enfin moi, si on me baratinait, ça n'allait pas du tout. Et puis son but ultime à elle, c'était quand même de me débaucher, entre guillemets.
Ça vous a pas fait peur, ça, la prostitution
Non.
Vous étiez très jeune. Est-ce qu'elle vous a fabriqué,
non,
Patricia Herzmann?
Non. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que ça nous a permis à l'une et à l'autre de vivre ça comme une vraie rencontre. C'est que ça peut paraître prétentieux, mais chez moi, elle a pas eu de travail tellement à faire, que ce soit physiquement, intellectuellement, au niveau de la culture générale, etc. Je pense qu'elle a pas eu trop de boulot avec moi.
Parce qu'elle avait de grandes exigences. Hein.
Oui, absolument. Mais c'est bien d'ailleurs, c'est super.
Alors oui, et en même temps, c'est très dur, hein, pardon, mais c'était
Pourquoi
quelqu'un... Hyper sélectif. Ce que je veux dire, c'est qu'elle était assez impitoyable sur les critères de beauté, Virginie Giraud.
Ah oui, elle voulait, comme vous l'avez dit, des créatures, des femmes sublimes, dans des styles différents d'ailleurs. Je pense que Patricia pourrait expliquer mieux que moi. Mais elle cherchait à vraiment peaufiner ses filles, tant physiquement qu'intellectuellement. D'ailleurs, il fallait qu'elles soient bilingues. Je crois qu'il y avait des cours d'anglais qui étaient dispensés aux jeunes filles qui en avaient besoin.
Celle qui a, voilà, oui, effectivement, elle essayait de, partout où le bas blessait, si je puis dire, elle essayait de contrebalancer ça par quelque chose de rapidement et très, très pointu au niveau de l'éducation, avec un grand E, quoi, finalement. Elle apprenait à ses filles tout ce qu'elle ne savait pas faire, dire, être également, et avoir cet aspect physique qui pouvait leur permettre d'entrer partout.
Voilà, alors d'ouvrir les portes d'une intimité aussi, à des inconnus, à des hommes, à des clients, qu'on appelait donc les garçons. Donc on a vraiment le sentiment tout à coup que la prostitution revêt une sorte de visage, des contours presque joyeux, presque...
Ah,
oui.
Joyeux, c'est pas le mot adapté, mais disons que c'était tellement confortable et sécurisant et que de vivre dans cette espèce d'opulence en ayant toujours cette couverture qui vous protégeait de tout, à savoir Madame Claude elle-même, qui triait d'une part ses garçons.
Vous n'aviez jamais peur?
Ah, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir peur, non.
Sans le téléphone, elle ne pouvait rien faire. Alors, il faut bien préciser qu'on a une autre époque. Hein. On est dans les années 50, 60, Virginie Giraud. Le Allo Oui de Madame Claude est devenu célèbre.
Tout à fait, bien avant celui de Nabila.
Parce que comment ça s'est passé? Oui, exactement. pas évidemment. Comment ça s'est passé, justement? Comment est-ce qu'elle a monté son réseau?
Eh bien, dans Allo Oui, elle raconte que lorsqu'elle décide de devenir chef
Allo Oui était son livre. Hein.
Exactement. Oui. Chef de sa propre entreprise, eh bien, elle fait comme tous les entrepreneurs. Alors elle fait une étude de marché. Donc elle se met à aller visiter les prostituées des différents quartiers de Paris, celles qui travaillent seules, celles qui ont des filles, celles qui ont des endroits, celles qui envoient des filles ailleurs, quelles pratiques se font, pour qui. Et elle décide qu'elle veut se placer sur un créneau extrêmement huppé, c'est-à-dire le luxe de la prostitution.
Donc elle décide de s'adresser à une clientèle très haut de gamme, je dirais. Elle a un bureau, elle a un appartement, comment ça se passe ?
Alors il faut bien comprendre qu'elle n'a pas le droit d'ouvrir une maison close, puisque les maisons closes sont interdites en France depuis la loi Martin Richard de 1946. Certes, il reste quelques bordels cachés, autorisés avec la police des mœurs à l'époque, hein, parce que ça permet de soutirer des informations sur tout un tas de choses, mais Madame Claude n'a pas encore les protections suffisantes pour le faire. Donc elle s'installe dans un appartement avec deux téléphones, un pour un garçon, un pour les filles, c'est un système américain hein, qu'elle importe, c'est le système de la call girl.
Voilà, elle ne peut donc a priori rien faire sans son téléphone, mais sans ses filles aussi. Alors comment Madame Claude a-t-elle réussi à régner, je dirais, aussi au sein des plus hautes sphères de l'État, sur la base des fantasmes et du désir? On se retrouve dans un instant pour la suite de Jour J sur RTL.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui ce soir, donc, vous l'avez compris, s'intéresse à Madame Claude, au destin de Madame Claude. Le jour J, c'est le 16 mars 1992, la chute de Madame Claude. Une chute qui survient après des années, je dirais, de règne sur les nuits parisiennes et pas que. Elle a réussi en fait à pénétrer, si je puis dire, les plus hautes sphères de l'État. C'était son but, Virginie Giraud, à Madame Claude, à un moment donné, quelque part, c'était malin. Elle s'adressait aux plus grands, elle leur proposait les services de jeunes femmes irréprochables, qu'elle façonnait, qu'elle aidait à grandir, comme vous le dites très bien, Patricia Herzmann, et quelque part, elle les attirait dans ses filets, mais ces hommes-là étaient coincés.
Alors non, ils n'étaient pas coincés, non, pas du tout, parce que déjà elle faisait bien son métier, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais révélé ce qu'elle savait sur les pratiques de ses clients, même quand elle était acculée par la police, donc c'est la preuve quand même de son intégrité. Alors pour rebondir sur ce que vous disiez au début, dans son livre Aloï, elle dit « au début, mes ambitions n'étaient pas si grandes ». Et en fait elle se rend compte qu'elle a tout les cartes en main pour faire un grand business. Et puis je pense qu'elle aimait l'argent quand même, hein, parce que c'était quand même un moteur. Au départ, c'était pour son indépendance, pour le plaisir aussi d'avoir le sentiment de dominer les hommes en dominant leurs désirs. Elle l'explique très très bien elle-même dans ses livres. Et puis elle se rend compte que finalement, comme on rentre dans son réseau d'amis, de garçons par cooptation, et ben quand on a des capitaines d'industrie, ils emmènent des politiques, ils emmènent des comédiens, ils emmènent des artistes. Et puis tout ça commence à faire un panel d'hommes qui ont tous beaucoup d'argent et qui peuvent donc payer très cher les services d'une très jolie fille qui va leur offrir un moment de détente.
Alors, qui étaient ces fameux clients, Patricia Herzmann ?
Bien écoutez, ceux que j'ai rencontrés, il y avait quelques personnalités bien évidemment mondialement connues.
Ah bah écoutez, racontez-nous, nous on les a pas connus.
Il n'y a pas de problème, c'était juste pour pas entrer dans le...
Ah monsieur, bon, enfin, ça nous intéresse.
D'accord, il n'y a pas de problème. Bah, écoutez, moi j'ai rencontré le Shah d'Iran, j'ai rencontré plein d'hommes politiques étrangers, hein, donc je ne me rappelle pas le nom, ce n'est pas la peine de me le demander, je ne saurais pas vous le dire.
Pas d'hommes politiques français ?
Si, certainement, mais vous savez, moi, justement, à 18 ans et demi, je n'y connaissais rien en politique, et à la télévision de l'époque, je veux dire, moi, je zappais plutôt les infos, et j'allais m'amuser avec mes potes, donc voilà, je n'ai pas rencontré, si vous voulez, en face de moi, quelqu'un dont le visage passait à la télévision suffisamment souvent pour que je puisse le reconnaître. Mais j'en ai probablement rencontré.
Mais oui, est-ce que vous saviez aussi qui vous alliez rencontrer? En deux mots, est-ce qu'il y avait une organisation? Est-ce que Madame Claude, vous disiez, bon, Patricia, là, tu vas... Alors, où est-ce que vous receviez?
Alors,
comment ça se passait?
Comme c'était l'usage, j'avais pris un appartement, un grand studio à la Maison de la Radio, dans le 16e, à Paris.
Dans le 16e arrondissement, oui.
Et voilà, et je l'ai façonné, ce que j'appelais ma petite grotte, et je l'ai arrangé pour faire une ambiance rassurante, agréable, où les gens pouvaient se sentir à l'aise et détendus surtout. C'était quand même ça le but. Parce que contrairement à toute la légende qui a pu suivre jusqu'à aujourd'hui encore, le sexe n'était pas le moteur numéro un d'une rencontre entre un garçon, une fille de chez Claude.
C'était quoi ?
c'était lui amener, en fonction de ses desiderata, parce que le radada, comme j'appelle ça de façon un peu rétro, mais bon,
oui, il y a d'autres.
Que, hein, ça
le tagadag boum boum, ou voilà.
Le radada, ça prend quoi? Ça prend 10 minutes, ça prend 20 minutes.
Oh, mais c'était rapide, dites-moi.
Bah, vous savez, les mecs qui viennent, c'est qu'ils ont peut-être à ce niveau-là envie ou besoin. Mmh. Donc, mais le reste, il faut quelque chose de consistant pour passer le reste des deux heures.
C'est
parce que c'était à peu près deux heures les rendez-vous, les petits rendez-vous de l'après-midi.
D'accord.
Comme on appelait ça.
Et alors comment ça se passait, pardon, mais en termes d'argent, c'est-à-dire quels étaient les tarifs? Les tarifs étaient les mêmes pour toutes les filles? C'était en fonction du client?
Il y avait des tarifs de base, comme la carte d'un restaurant, si vous voulez. C'était en fonction du temps qu'on passait, et non pas des prestations particulières, sauf des trucs, mais ça j'ai pas connu, hein, sauf des trucs peut-être expérimentaux ou futuristes ou martiens à la limite. Mais non, les tarifs étaient fixes pour tout le monde.
Vous touchiez l'argent, c'est Madame Claude qui vous payait ou c'était le client
qui... C'est le client qui nous payait et nous, à peu près tous les 15 jours, on allait... Moi, j'allais chez Catherine, avenue Georges V, dans son appartement, faire les comptes.
Voilà, le bras droit donc, de Madame
agenda,
Claude.
Voilà. Mon agenda et elle le sien.
Et donc, vous reversiez 30%. Voilà, enfin, c'est d'où le surnom près, de Madame Claude, Madame 30%.
Oui.
Donc, vous reversiez 30% de vos gains à Madame Claude. Tout se passait donc par téléphone.
Oui.
Donc, il y avait, comme le disait Virginie Giraud, un téléphone pour les clients. Donc, elle recevait...
Une ligne pour les clients, une ligne pour les filles.
D'accord.
Et puis, une troisième pour ces conversations, mettons, celles dont elle se servait quand elle m'appelait pour discuter, quoi. Pour autre chose que pour le boulot.
Ah, donc, elle avait une ligne privée sur laquelle se disait... est-ce qu'il y avait des... Est-ce que vous parliez entre filles? Est-ce que vous connaissiez?
On se connaissait quand il nous arrivait d'avoir des rendez-vous communs ou des voyages. C'était plus pour les voyages ou les dîners qu'on était, on se retrouvait à trois, voire quatre. Quatre, ça a été le maxi, je crois. Sinon, les filles entre elles, non. On ne copinait pas, si vous voulez, en dehors des rendez-vous où nous étions amenés à être au même endroit.
Vous avez fait des voyages de dingue?
Ouais, de dingue, des voyages sympas, oui, effectivement.
Vous êtes allé
où?
C'est
surtout le contexte dans lequel on était reçu, dans lequel on voyageait, puisque il y avait des jets privés, il y avait le chauffeur qui vous attendait avec la limousine en bas de chez vous pour vous emmener au Bourget et puis après pour vous emmener de l'aéroport où on atterrissait jusqu'à chez le monsieur. Et voilà, moi j'ai surtout beaucoup fréquenté l'Italie, l'Angleterre et la Suisse, parce que bon...
Donc des voyages de dingue quand même, quand on a 18 ans.
Au niveau du contexte dans lequel ça se faisait.
Ouais.
Mais je suis pas allée aux Bahamas ou à Tahiti, à mon grand regret d'ailleurs. Mais bon, voilà.
Vous nous parlez d'une période dont on sent qu'elle a été heureuse. Ça a été aussi la période de la fortune de Madame Claude. Elle est devenue incontournable aussi, Virginie Giraud.
Tout à fait. Les heures fastes de Madame Claude, c'est la fin des années 60. Ça continue un petit peu dans les années 70. Mais on voit aussi, elle l'explique dans Halloween, qu'il y a un changement de mœurs avec mai 68. Il y a une rupture. Les femmes deviennent plus disponibles dans l'espace public pour avoir des galanteries avec des hommes. Et donc la prostitution est un peu en perte de vitesse à ce moment-là.
Alors, parmi ses clients, on en parlait. Alors, vous en avez peut-être connu, dites-le nous, Patrice Hirschman, le patron de Fiat, Gianni Agnelli.
Vous l'avez connu? Dont j'ai eu la chance d'être une très proche amie. Quoi.
Marlon Brando?
Non, lui je ne l'ai jamais rencontré.
Marc Chagall?
Peut-être.
Le Chat d'Iran?
Oui.
Aristote Onassis?
Jamais.
Jamais. En tout cas, sur les hommes politiques, on aura remarqué qu'elle sera restée beaucoup plus évasive, bien consciente sûrement qu'à elle seule, Madame Claude détenait des secrets qui lui garantissaient très certainement aussi une certaine sécurité. Jusqu'à quand? On va en parler dans un instant avec vous en direct dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous en direct sur RTL et Jour J qui revient ce soir sur la vie incroyable et sulfureuse de Madame Claude, dont le réseau de prostitution de luxe, on l'aura bien compris, a autant ravi le tout Paris qui l'a fait trembler au bout d'un moment. Les filles, les petits signes de Madame Claude, comme elle se plaît à les appeler, assouvissent donc les fantasmes bien souvent des plus grands. Il se dit peut-être aussi sur l'oreiller des secrets d'ordinaire bien gardés. Madame Claude connaît en tout cas son pouvoir et personne ne bouge.
Si j'étais très moche, je dirais que je n'avais pas affaire au petit personnel. Il faut aller très haut si on veut vraiment, être protégé bien longtemps.
C'est donc ce qui a été votre...
Faut aller au plus haut.
Au micro donc de Béatrice Schoenberg, Patricia Herzmann, vous avez été l'un des petits signes de Madame Claude.
Oui, j'étais son petit lapin, disait-elle.
Donc vous avez été le petit lapin de Madame Claude. On l'entend là, elle ne se cache pas de ça. C'est-à-dire, oui, j'allais taper très haut dans la clientèle.
C'est d'une logique.
Pour mieux me protéger.
Bien entendu.
Parce qu'il faut bien le dire, effectivement, qu'on n'avait pas le droit à l'époque.
Ça, voilà. Bien sûr.
Oui, mais donc elle était, c'était quand même tout un système qu'elle avait mis en place, non seulement pour effectivement gagner de l'argent, faire fortune,
elle savait penser à tout,
rendre service et en même temps effectivement se protéger, parce qu'elle était parfaitement consciente que ce qu'elle faisait n'était pas légal.
Oui. Mais enfin, la légalité, après, elle est un petit peu à géométrie variable, hein, à cette époque-là,
en tout
notamment.
En tout cas, elle l'avait bien compris.
Bien entendu. Puis elle avait fait, comme disait Virginie, une étude de marché auparavant. Donc elle avait essayé de repérer, avant de se lancer, tous les aspects de la profession. Et également tous les niveaux, toutes les strates.
Et Virginie Giraud, est-ce que vous pensez que certains hommes, quand je disais quelque part qu'ils étaient coincés tout à l'heure, vous m'avez contredite, mais quelque part, est-ce que vous pensez que certains hommes, à un moment donné aussi, se sont retrouvés un peu, pardon de le dire comme ça, mais une main devant, une main derrière, en se disant, bon, alors, ok, là maintenant, j'ai rencontré une jeune prostituée, j'étais dans le réseau de Madame Claude, et donc, du coup, motus, bouche cousue, et je suis un peu coincée.
Alors, je pense que la majorité d'entre eux, puisqu'ils étaient cooptés, savaient comment fonctionnait le réseau de Madame Claude pour les amis, et que jamais elle n'aurait balancé des secrets sur eux. Donc il y a quand même quelque chose de très rassurant. Après, cela dit, on parlait de ces protections. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, la police mondaine qui gère les mœurs, c'est pas la brigade de répression du proxénétisme d'aujourd'hui. Ce sont des gens qui, à l'époque, aiment le showbiz, s'infiltrent un peu partout, certains sont des ripoux, et surtout, ils collectionnent les informations sur les personnes importantes, voilà, en passant par Madame Claude.
Donc elle détient des secrets.
Oui, mais elle ne sait pas pour les livrer en pâture à la presse. Par contre, la police a les moyens de lui mettre la pression pour avoir des informations pour qu'elle, elle garde son business. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne.
Est-ce que vous avez, Patricia Herzmann, reçu des confidences, par exemple, d'hommes que vous rencontriez ?
Bon, écoutez, oui, mais pas des secrets d'État, sincèrement. Il n'y a pas de quoi... non.
Quand on vous dit que Madame Claude avait un carnet d'adresses incroyable, bah, et c'est vrai
évidemment.
Qu'elle n'a jamais elle n'a jamais déballé, on y reviendra, hein, elle aurait pu, elle ne l'a pas fait, elle est partie avec
c'était
ses secrets.
C'était pas dans son style de... Elle avait une notion de l'éthique, particulièrement dans ce boulot, et qui plus est dans la vie en général, comme elle avait une notion et un instinct pour la perfection, ou l'idée qu'elle s'en faisait. Elle était très exigeante, effectivement. Ça a d'ailleurs fait beaucoup parler, beaucoup jaser, dans le mauvais sens du terme. Mais c'était quelqu'un qui avait énormément d'instinct. Et son instinct, quelque part, ça a prouvé avec le temps que son instinct ne l'a jamais trompé.
Alors, est-ce que vous pensez aussi, Patricia Herzmann, qu'elle a travaillé avec la police ?
Elle avait on va schématiser en disant qu'elle avait une mallette remplie de documents, ce qui était bien évidemment au sens figuré, hein. Et que la police savait qu'éventuellement, ce serait bien si elle pouvait l'entrouvrir de temps en temps. Mais Claude, sa force, c'était qu'elle n'a jamais entrouvert sa mallette. Mais elle faisait savoir, à qui de droit, qu'elle était en possession de certains documents. Certains secrets, c'était peut-être pas spécialement sur du papier, c'était des confidences, des choses comme ça. Mais c'était son arme aussi, c'était sa seule défense finalement.
C'était sa seule façon d'être protégée, d'une façon...
Quelque part, oui. Parce qu'il fallait qu'elle soit protégée. Vous vous rendez compte qu'elle a détrôné à elle toute seule toute la julocratie et le proxénétisme masculin en un an de temps, elle a viré tout le monde.
Virginie Giraud.
Alors, il faut savoir que le dossier de Madame Claude à la police a disparu aujourd'hui. Et comme le disait le commissaire Maigret, donc le patron de la BRP, ça ne s'invente pas, il me disait que ce dossier n'a pas disparu pour tout le monde. Soit que des gens ont voulu barboter des choses pour collectionner, soit qu'il y avait beaucoup de choses compromettantes dedans.
Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer de compromettant ?
Probablement des histoires peut-être du renseignement qui devait flirter un peu avec Madame Claude pour apprendre des choses. Hein. Les gens du renseignement sont quand même passablement dangereux quand ils le veulent.
Parce que ceux qui passaient effectivement à un moment donné entre les mains des petits signes, sous les ailes des signes de Madame Claude, étaient des hommes puissants, il faut le rappeler, hein, pour
bien
ceux
sûr.
Qui nous écoutent.
Et pour la police ou le renseignement, si vous voulez faire chanter quelqu'un, savoir ce qu'il fait dans son lit, c'est pratique.
Donc elle détenait...
Bah, elle savait.
Des secrets.
Elle savait, puisque de toute façon, pour envoyer une fille qui correspondait à la demande du monsieur, il fallait déjà qu'elle sache que le monsieur attendait.
Donc c'est ce qui fait aussi qu'elle a été tranquille pendant un temps.
Certainement, tout à fait.
Alors, pourtant, ça n'a duré qu'un temps, cette histoire. Puisque Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République, décide un jour de ne pas la protéger. Voilà. Quels sont les dessous de ce revirement, Virginie Giraud ?
Ah, les dessous de ce revirement, c'est un malentendu. Alors déjà, évidemment, quand Valéry Giscard d'Estaing arrive au pouvoir, il veut en finir avec la République des copains et des coquins. C'est son gros coup de com', il veut moraliser la Ve République.
Bon, sauf que... Ça a l'air de plaire à Patricia Arsman.
Bah, il était client de Madame Claude, en fait.
Bien c'est entendu. Là qu'on
va... Alors, expliquez-nous,
il
justement.
Il a embouti la voiture d'un laitier et une autre voiture d'un ami à moi, une Ferrari, dans un mur rond défoncé à 5 heures du matin.
Alors ça, ce sont vos souvenirs, Patricia Arsman. Hein. Ça, ce sont vos souvenirs et vos révélations.
Bah, absolument, ça qui n'engage que vous. C'est la vérité.
Virginie Giraud.
Alors, avant d'être président de la République, il fréquentait les filles de Madame Claude et un jour, il se passe quelque chose de totalement imprévu. Il est au lit avec une fille. Cette jeune fille est une danseuse. Voilà, qui a dans sa vie privée une petite amie. Et cette petite amie est très jalouse du fait que sa compagne fasse des passes pendant la journée. Et furieuse, cette petite amie débarque dans l'appartement et fait une scène de ménage à la jeune fille de Madame Claude devant le client. Elles s'écharpent vraiment, la scène est assez cocasse. Et pendant ce temps, le client ramasse ses affaires, se rhabille et s'en va. Et c'est là que les deux jeunes filles percutent. Mais c'est Valérie Giscard d'Estaing en fait qui vient d'assister à cette
scène. Donc elles étaient jeunes, mais elles savaient effectivement qui était le président de la République.
Alors il n'était pas encore président à ce moment-là,
absolument.
C'était un peu de temps
avant.
Et là, en fait, VGE est convaincu qu'on lui a tendu un piège pour le faire tomber. Ce qui est faux, hein, parce que c'est vraiment une scène de ménage.
C'est fortuit, voilà.
Voilà, alors du coup, comme il est terrorisé parce qu'il vient d'être nommé président, il veut moraliser la République, on ne peut pas lui sortir les dossiers et chérie, t'es allée aux prostituées, c'est pas possible. Donc, on fait tomber Madame Claude et comme finalement, c'est difficile, on va passer par le fisc, comme pour Al Capone.
Le fisc qui ne fera pas de cadeau donc à Madame Claude, alors elle tente de refaire sa vie outre-Atlantique en 1977. Les États-Unis ignorent complètement qui est Madame Claude. Elle s'appelle désormais Claude Tolmachev et elle ouvre une pâtisserie sur Pacific Palisades. Alors elle aurait pu y rester, Madame Claude, y couler des jours paisibles, mais elle décide de revenir en France et c'est là que le destin bascule. Ce sera dans un instant en direct dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Voilà, vous l'avez compris, c'est une vie romanesque que l'on vous raconte depuis 20h sur RTL. Madame Claude, celle qui déclarait ne pas connaître la peur, eh bien elle s'est ennuyée aux États-Unis au milieu de ses petits fours, de sa pâtisserie. Alors elle décide de revenir en France à la fin de l'année 85 où elle se fera arrêtée quelques semaines plus tard alors qu'elle fait profil bas dans sa maison du Lot. Après un court séjour en prison, elle recouvre sa liberté et son envie d'en découdre. Alors qu'à cela ne tienne, elle reprend du service Madame Claude, elle remonte une affaire, elle recrute des filles, mais ce qu'elle ignore à ce moment-là, c'est qu'elle est sous étroite surveillance, celle de la chef de la brigade de répression du proxénétisme, Martine Monteil.
Le personnage était célèbre et moi ce que j'ai voulu c'est éviter d'en parler à tous. On travaille sur Madame Claude, ça serait parti partout et y compris à tous les niveaux. Jusque-là cette femme, elle n'avait jamais été atteinte pénalement, si vous voulez. Donc l'idée, c'était on va quand même arriver à réaliser une affaire sur Madame Claude. Après tout, elle recommence. Eh ben, allons-y cette fois-ci. Et donc. On a fait ça d'une façon extrêmement feutrée, ouais, c'est vrai.
Voilà, Martine Monteil qui revient donc sur l'arrestation de Madame Claude et puis cette fameuse surveillance dans l'émission C'est à vous au micro d'Anne-Sophie Lapix. Virginie Giraud, comment ça s'est passé? En fait, elle disait ne rien craindre et en réalité, elle a péché quoi? Par orgueil, en remontant sa petite entreprise?
Dans les années 90, le péché d'orgueil, c'est de passer beaucoup dans les médias. Elle passe son temps sur les plateaux télé, des informations, des divertissements, à raconter sa vie, qui elle est, avec beaucoup de fierté. Évidemment, elle devait tirer un peu d'argent de cela. Et du coup, elle remonte un petit business alors qu'elle s'est installée dans un quartier du Marais, rue Saint-Gilles. Et là, évidemment, Martine Monteil, qui est la première femme commissaire à la tête de la brigade de répression du proxénétisme.
Illustre femme dans le monde de la police.
Voilà, on entend la fierté dans sa voix, hein, vous avez entendu quand elle a arrêté Madame Claude. Et évidemment, elle veut faire un coup, parce que c'est pas facile d'être une femme dans ce milieu-là, dans les années 90, il faut s'affirmer. Le coup, c'est Madame Claude, c'est une femme contre une femme.
Comment ça s'est passé?
Eh bien, évidemment, il y a des filatures, il y a des surveillances, il faut un peu un flagrant délit. Et puis évidemment, la police arrive à 6h du matin pour la traîner au commissariat. Évidemment, elle n'a pas le temps de se maquiller, elle est en jogging, elle arrive toute décoiffée, elle est furieuse. Évidemment, Martine Monteil sait que c'est le meilleur moyen de la foutre en rogne et de tirer ce qu'elle veut d'elle. Donc elle la laisse mariner dans son jogging pendant 24 heures. Et le lendemain, elle l'autorise à aller passer chez elle, s'habiller, et Martine Monteil l'invite à dîner dans son bureau de la BRP. Bon, des pizzas, faut pas que ce soit trop chic hein, quand même. Alors là, évidemment, Madame Claude est toute pomponnée. Et puis, elle discute et Martine Monteil va obtenir des aveux.
Des aveux, effectivement. Et alors, ce qu'il y a de fou, hein, c'est que quelques années plus tard, vous allez l'entendre, c'était en 1996, Madame Claude parlera de Martine Monteil et en gardera toujours un profond respect.
Elle gagne bien, hein, cette femme. Et pourquoi je dis ça, moi, la poulet ? C'est une femme bien, pourtant, j'avais tout à craindre et tout à redouter et tout à détester chez elle, au départ. Elle était vraiment de l'autre côté. Je me suis trouvé dans une situation idiote. Pour moi, je n'avais rien à me reprocher. Je n'avais, comme on dit toujours dans la chanson, je n'avais pas tué, je n'avais pas volé. J'étais très malheureuse. Et puis, elle a... c'est un petit peu comme dit Brassens, il y a eu un peu de chaleur dans ma vie, là, juste à ce moment-là.
Comment est-ce qu'on peut expliquer, Patricia Herzmann, qu'elle puisse, quelques années après cette chute, hein, et puis sa vie à Nice et une fin de vie qui n'a rien à voir avec le faste de ses affaires à Paris, comment est-ce qu'on peut expliquer que Madame Claude parle de la sorte de cette femme qui l'a fait tomber ?
Simplement parce qu'elle a été sensible au fait que, effectivement, que Martine Monteil l'a laissée rentrer chez elle pour quelques heures, sous surveillance bien évidemment, parce que Claude était effectivement très à cheval sur les apparences, et le fait qu'elle arrive décoiffée au réseau du lit comme ça, en jogging, en chaussons, vous voyez, c'est humiliant déjà en soi. Donc voilà, ça, elle a été... Et puis peut-être que Martine Monteil, il y a peut-être derrière toute cette méchanceté latente, quelque chose qui relève de l'humain, vraiment, et qu'elle s'est rendue compte après coup, après des heures d'entretien, que Claude, elle était loin d'être le monstre qu'elle s'était imaginé.
Les aveux, quels étaient-ils, Virginie Giraud ? Elle a tout dit ?
Non, elle dit non. Pas tout, absolument pas. Elle ne peut reconnaître que ce qui est prouvé par les enquêtes de la police. C'est-à-dire qu'effectivement, elle fait l'intermédiaire entre des hommes et des femmes, qu'elle touche une partie de l'argent et qu'elle ne le déclare pas. Encore une fois, tout relève du fisc pour l'arrêter. Alors évidemment, il y a la prostitution, il y a le proxénétisme qu'on va lui reprocher puisqu'il s'agit bien de ça. Mais elle niera toujours de manière assez élégante en disant qu'elle n'aime pas ces mots et que c'est pas vraiment ce qu'elle fait.
Elle aura toujours voulu avoir un vocabulaire particulier, même si là, elle nous parle quand même de Martine Monteil comme d'un poulet. Hein, j'aurais jamais pu en parler comme ça d'un poulet, nous dit-elle.
Oui, c'est le mépris pour la valetaille de la police, quelque part. Et puis finalement, Martine Monteil et Madame Claude, ce sont deux femmes de tête qui se rencontrent et c'est pour ça qu'elles se respectent.
Donc, il y a ce respect effectivement mutuel. La fin de la vie de Madame Claude, vous lui avez parlé
Écoutez,
après
malheureusement,
sa,
non,
sa descente aux enfers.
C'est ce que je regretterais jusqu'à mon dernier souffle. De pas être resté en contact, mais ça c'est de ma faute, c'est ma nature à moi, voilà. Et voilà. Je
Comment a-t-elle terminé ses jours ? Vous suiviez
elle
un peu son actualité
à Nice, pas aussi désargenté qu'on voulait bien le dire.
Elle c'est ce qu'elle disait. Elle disait qu'elle avait plus d'argent.
Oui, on lui a tout pris. Elle va pas en plus dire j'en ai encore, ce qui est logique.
On lui demandait 17 millions hein, de francs.
Ouais,
hein.
Ouais. Donc, et puis elle a beaucoup paru dans les médias. Elle est beaucoup parue dans les médias, pardon, parce que justement, la première amende qu'on lui a mise, il fallait quand même qu'elle la paye, parce que c'était à l'époque des contraintes par corps. C'est-à-dire, on payait ou on allait en tôle. Et quand on sortait de tôle, il fallait quand même payer de nouveau. Donc voilà, elle a rentabilisé un petit peu le drame qui lui est arrivé, la manière dont ça s'est passé, parce que ça intéressait les médias.
Est-ce qu'elle s'est éteinte en 2015 seule, Virginie Giraud ?
A priori seule, c'est ce qui se dit de manière assez consensuelle, vu qu'elle n'avait plus de rapport avec sa famille, sa fille, donc de toute façon elle n'a jamais été proche de sa famille.
Elle a tenté se rapprocher de sa fille, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est installée à Nice, pardon.
Et c'est pour ça, je pense que dans les médias, après, elle disait non, je n'ai pas de fille parce que ça avait échoué.
Parce que ça avait échoué, tout à fait.
Et les amis...
Elle a fini lâchée de tous ?
Non.
Il y avait sans doute des amis, ceux qui notamment avaient servi de prête-nom pour l'achat d'appartements, pour garder une partie de sa fortune, qui restaient dans son orbite. Mais c'est pas les gens qui regardent la télé le soir avec vous, les soirs où ça va pas, quoi.
Est-ce que c'est une fin de vie triste après les années Patricia Herzmann, joyeuse ?
Je revois toujours cette scène, justement, dans l'émission de Sébastien, où elle disait voilà, moi j'ai 71 ans aujourd'hui, je veux pas finir gâteuse. Enfin, le discours que je tiens aussi, moi, bien avant de l'avoir connue. Hein. Et elle avait fait ce geste en disant je mettrai fin à mes
jours. Donc ce geste, effectivement, de mettre les doigts sur votre tempe comme si c'était
voilà,
un pistolet.
C'est vrai, j'oubliais qu'on était à la radio. Et malheureusement, comme elle a fait un anévrisme. Elle a dû perdre une partie de ses facultés, ce qui fait qu'elle n'a pas pu mener à bien son projet ultime. Et c'est bien dommage pour elle, et je pense qu'elle en a beaucoup souffert de ça.
Merci beaucoup en tout cas, Patricia Hersman, d'avoir accepté mon invitation. Vous témoignez donc de cette période de votre vie dont on sent vraiment une pointe de profonde gratitude et de nostalgie.
J'ai beaucoup de respect pour
elle. Dans votre livre Call Girl du Tout Paris aux éditions du Nouveau Monde, il y a des noms dans votre livre. Merci Virginie Giraud d'avoir accepté mon invitation. Je conseille votre ouvrage Les femmes et le sexe dans la Rome antique. Alors c'est une autre époque, hein. Il y a d'autres jours J aux éditions Talendier. Merci à vous deux, mesdames. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À demain 20h évidemment pour un nouveau rendez-vous sur RTL. Jour J, c'est votre nouveau magazine de récits. Merci à tous pour vos retours enthousiastes d'ailleurs, et à demain.